toute la beauté, non, je ne me perdrai pas. Sinon pour un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure. La saveur des beautés qui passe, souvent le mieux qu'elle fait. Elle ravage les palais et ne laisse que des crevasses. Aussi pour nulle créature, oh non, je ne me perdrai pas. Sinon pour un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure. Non, jamais le cœur généreux ne veut aisément s'arrêter.
Vous écoutez À l'école de l'oraison, le balado des écoles carmélitaines l'oraison du Québec, saison 2025-2026, intitulé L'oraison, racines, fleurs et fruits. Quatrième épisode, décembre 2025, intitulé Le fruit de l'esprit. Cet enregistrement a été réalisé lors de la soirée mensuelle sur Zoom. Vous pouvez suivre l'actualité des écoles d'oraison sur le site www.lecarmel.org, section Frères, onglet Activités. Bonne écoute.
Il défaille, celui dont l'amour est brûlure, a le dégoût de ce qu'il voit. Il désire un je ne sais quoi, qu'on trouve par aventure.
Et bienvenue pour cette quatrième rencontre de notre année d'école d'oraison. Des racines, des fleurs et des fruits. Et cette rencontre, j'aimerais l'intituler « Le fruit de l'esprit, c'est la vie ». Alors, le fruit de l'esprit, ça, c'est une citation, c'est le début d'un texte célèbre de l'Épître aux Galates. Hein, le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, compréhension. Bon, ça dépend des traductions que vous avez. Alors, je voudrais me servir de ce texte pour, entre autres, le remettre dans la dynamique dans laquelle Paul l'envisage, parce que ça va nous servir. Mais avant de commencer, je voudrais faire une remarque préalable. Dans les images hein, que nous employons, j'en parlais la première fois, hein, ces images vives, dans ces images que nous employons, nous qui sommes des êtres humains, nous parlons d'arbres et nous savons que nous ne sommes pas des arbres. Nous savons que nous ne sommes pas des plantes. Sinon, j'aurais distribué à tout le monde des petits granulés ad hoc, de la bonne composition, et puis on se serait arrosé soi-même à tous les matins. Lorsque nous regardons les arbres, et puis on l'avait évoqué, c'est d'autant plus étonnant que tout récemment, le frère Élie, dans une prédication de semaine, est revenu là-dessus. J'avais déjà évoqué cela, les racines, on ne les voit pas. Ce qu'on voit, c'est le tronc, les branches, les fleurs, les feuilles, les fruits, etc. Et pourtant, nous, nous parlons de nos racines. Nous sommes, un petit peu comme dans le cas de Thérèse, où nous sommes à la fois la demeure, celui qui habite la demeure, et puis celui qui parle du fait qu'il est une demeure habitée par Dieu et que lui-même a habité cette demeure, eh bien, nous parlons de nous-mêmes un petit peu comme des arbres, en sachant très bien que nous ne le sommes pas. Si je fais cette remarque, c'est important. C'est que ce qui se dégage dans la contemplation très simple, hein, très, très quotidienne, mais qui parfois prend une épaisseur, prend une tournure particulière de ce qui nous entoure, des phénomènes qui nous entourent, à commencer par les choses les plus simples, comme justement les arbres. Au travers de cela, c'est dans le fait même d'être saisi par un phénomène qui n'est pas d'abord nous, qui est le phénomène du vivant, que nous saisissons quelque chose de nous-mêmes. Si je dis cela, c'est pour préparer ce que je voudrais prendre dans cet épître aux Galates. Lorsque Paul dit le fruit de l'esprit, on est dans Galates au chapitre 5, la première chose, c'est que lorsqu'on cite ce passage, on le coupe un petit peu de son contexte. Alors, je ne vais pas aller trop loin là-dedans. J'étais un petit peu surpris en préparant cela ces derniers jours de constater que ça avait beaucoup plus de force que je ne l'aurais cru. Paul parle de l'esprit, non pas comme d'une expérience d'abord intime, personnelle, que chacun ferait, puis ensuite ben, on rassemble tous ceux qui estiment qu'ils ont fait une expérience de l'Esprit Saint, puis ça donnerait l'Église, en gros ce serait ça l'idée. Saint Paul a fait une expérience très forte dans cette communauté, que du reste on ne sait pas situer géographiquement, sinon qu'elle est quelque part dans une région qui actuellement est le haut plateau de l'Anatolie. Paul a fait une expérience dans laquelle il s'est inclus, une expérience très, très vive d'une communauté de gens un peu banals, hyper majoritairement non juifs, mais avec une petite partie de juifs ou de gens qui connaissent le judaïsme. Paul y a fait cette expérience avec les autres d'une vie rendue neuve, rendue à sa fraîcheur eh bien, par cette rencontre mystérieuse du Christ ressuscité et par une manifestation de l'Esprit du ressuscité, de l'Esprit Saint. Si je dis cela, c'est que, puisque nous parlons d'oraison, nous avons un peu tendance, et c'est normal, à considérer que l'oraison est d'abord une question strictement personnelle. Et puis, bah, nous, on est une gang de gens qui faisons oraison, puis on en connaît d'autres, et puis etc. Et puis. On trouverait que ce serait le fun que de plus en plus de gens fassent oraison parce que c'est quand même une façon d'accueillir la vie et le Dieu qui nous parle de la vie et qui nous la donne d'une façon heureuse, simple, profonde, et qui en même temps nous change, nous transforme, finalement nous convertit, nous tourne vers lui. Et c'est juste, mais c'est quand même intéressant de constater que dans l'un des plus anciens textes du Nouveau Testament, parce que Galates est quand même répertorié parmi les tout premiers écrits du Nouveau Testament, avant même les évangiles, ce qui est rapporté, c'est pas d'abord une expérience personnelle, bien que Paul plutôt hein, parle d'une expérience personnelle, mais c'est d'une expérience faite par des personnes, mais en commun. En commun. Et que cette expérience est une expérience non pas de un petit peu extravagante, avec des manifestations. Un petit peu incontrôlable qu'on attribuerait à l'Esprit Saint, mais d'abord l'expérience de relations nouvelles, mais de relations nouvelles qui sont fragiles, puisque précisément l'Épître aux Galates, d'une part, elle évoque le fait que ces bonnes gens, pas si sûrs que ça, que l'Esprit de ce Jésus mort et ressuscité soit agissant en eux, ont estimé plus sûr de s'appuyer aussi sur la loi, parce qu'on n'est jamais trop sûr, deux précautions valent mieux qu'une. Ça vaut quand même à Paul tout un développement absolument inattendu et original. Et puis d'autre part, dans le même passage de Paul, Paul dit, bah, hein, on sait ce que produit la chair, alors il faudra expliquer pourquoi la chair, mais hein, emportement, rivalité, etc. Et puis on remarque que dans toute cette batterie de débordements, justement, que Paul évoque, c'est très très peu des choses personnelles, individuelles et intimes. Ce sont des problèmes relationnels d'une façon ou d'une autre. Donc c'est des problèmes de la communauté, c'est des problèmes des relations entre nous. Alors, il reste que Paul en vient à dire cela, hein, le fruit de l'esprit est. Alors, passer par le grec ne va pas beaucoup nous aider. Ce qui est plus intéressant, c'est de ressaisir la dynamique de fond. Parce que c'est des choses qu'on retrouve dans l'Épître aux Corinthiens, dans les Épîtres aux Corinthiens, mais surtout la première. Le fruit de l'esprit, on a tendance à le penser comme l'esprit qui agirait en nous et qui nous ferait produire. C'est un petit peu comme ça qu'on le pense. Parce que nous-mêmes, du reste, et ça va peut-être vous rappeler des choses qu'on s'est dites à la première rencontre, nous-mêmes, nous avons un petit peu tendance à oublier que nous sommes des êtres dont le principal fruit, c'est d'être des vivants. Et que nous considérons par exemple les arbres fruitiers, que nous d'ailleurs nous savons cultiver, que nous avons en quelque sorte apprivoisés, domestiqués, nous les regardons surtout pour leurs fruits. Et donc nous avons un petit peu tendance à penser que l'Esprit Saint en nous va opérer quelque chose qui va faire que nous allons porter de beaux fruits. Des fruits repérables, des fruits désirables. Mais la première chose que fait l'Esprit Saint, et la dernière d'ailleurs aussi, c'est de faire de nous des vivants. Dans le symbole de Nicée révisé à Constantinople, parce que dans le symbole de Nicée, il n'y avait pas l'Esprit Saint, dans le symbole de Constantinople, qu'il nous arrive rarement de réciter, mais tout de même qu'on connaît, je crois en l'Esprit Saint, il est Seigneur, il donne la vie. En grec, c'est zoopoion. Il fait la vie. Et c'est pas bios, hein, la vie biologique, c'est zoé, c'est la vie éprouvée. Hein, c'est joli, les jeunes femmes, les filles qui s'appellent Zoé, parce qu'en fait c'est het zoé, c'est la vie. Hein. Et encore une fois, c'est pas la vie sous son aspect de biologique, justement, hobios, mais c'est la vie sur le mode de l'éprouver. Et l'Esprit Saint fait de nous non pas des êtres biologiques qui produisent de beaux fruits, mais des êtres zoopoietai, c'est-à-dire qui sont faits vivants par l'Esprit Saint. L'œuvre principale de l'Esprit Saint est d'habiter notre vie de telle sorte que notre vie, nous l'éprouvions comme vivante et nous la vivions comme vivante. Il est vrai que Paul, dans son épître aux Galates, il détaille hein, toute une série de fruits. Mais vous remarquerez d'abord qu'il dit que le fruit de l'esprit, c'est un singulier. Alors, on ne va peut-être pas tout appuyer sur une remarque grammaticale, mais ce qui s'ensuit, c'est un ensemble d'attitudes qui ne sont pas séparables les unes des autres. Dans le fond, c'est un ensemble d'attitudes qui ressortit à un être qui est pacifié. À un être qui est habité, et pas seulement à un être, parce que je le disais plus tôt, à des êtres, des existants bien concrets, des personnes bien concrètes dans cette communauté qui vivent ensemble et qui apprennent à vivre ensemble un mystère qui leur est commun, en même temps qu'effectivement très personnel et très intime. Chacune d'entre nous vit de façon très personnelle et très intime une relation à un Dieu, et c'est là le paradoxe, qui n'envoie pas son esprit, qui est lui-même finalement, il ne s'envoie pas à la rencontre de ces créatures en vrac et en masse, mais il s'envoie lui-même à la rencontre de chacune de ces créatures. Mais chacune de ces créatures, en même temps, ne vit pas séparée des autres. Nous avons du mal à réaliser à quel point nous sommes pris, alors on peut prendre pris au sens de pris et porté, ou pris et parfois pris et mal pris, dans tout un réseau de relations vivantes. Alors évidemment, on pense à nos relations, nos amitiés, notre couple, notre famille, etc. Mais c'est beaucoup plus vaste que cela. Or, quelle que soit la façon dont on aborde les choses, l'Esprit Saint rejoint et fait vivre des êtres vivants à qui il donne de rejoindre leur propre vie. Il y a trois grandes images qu'on prend souvent pour parler de l'Esprit Saint, qui en fait ressortissent à trois expériences. La première, c'est celle du souffle, du respire, et qui s'appuie d'abord, enfin plutôt qui vient habiter une expérience que nous faisons, qui est une expérience qui est parfaitement continue. De relation au monde. Lorsque on est tous des êtres organiques, donc d'abord on n'arrête pas d'entretenir sans même s'en rendre compte notre être. Ça, c'est toute la machine biologique qui n'arrête pas de fonctionner. Mais en plus, régulièrement, et on se l'accorde certains beaucoup plus souvent que d'autres, et pour des raisons qui ne sont pas biologiques, mais de pur plaisir, nous mangeons. C'est une activité discontinue. Mais la respiration est une activité continue. Et c'est quelque chose, alors là, je ne me situe pas au plan de la biologie, mais au plan de l'expérience que nous faisons lorsque nous prenons conscience du fait que nous ne cessons de respirer, nous rejoignons le mystère de notre âme. Hein, l'âme, alors nous on l'entend beaucoup moins en français, on l'entend très bien en grec ou en hébreu, hein, psyché ou nefesh, c'est le souffle vivant. C'est un souffle, foncièrement c'est un souffle. Et c'est un souffle qui... Un souffle repos, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc une âme, elle est soit inspirante, soit expirante. Alors si elle est trop expirante, c'est sûr qu'elle va mourir. Mais lorsque... Il y en a dans l'auditoire qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour parler de ça, mais lorsque nous parlons, ça prend du souffle. Nous modulons un souffle. Nous inspirons, on se sent inspiré pour prendre la parole, ce qui veut dire qu'on va expirer, parce que en général on parle en expirant, pas le contraire, enfin c'est plus difficile. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose d'insaisissable dans le souffle, sinon que le souffle est un petit peu comme la pulsation, mais avec un degré, une variance beaucoup plus grande que les pulsations cardiaques, qui dans le fond se contentent d'accélérer, de ralentir, c'est un peu banal là. Alors que nous ne cessons de moduler par nous-mêmes notre souffle, lorsque par exemple on parle, on chante, où on court, où on fait un effort, et puis parfois aussi, le souffle et les variations du souffle s'imposent à nous-mêmes, lorsqu'on a le souffle court. L'angoisse, angustia, hein, c'est le resserrement du souffle. Si j'évoque tout cela, c'est que l'Esprit Saint ne va pas respirer à notre place. Mais une expérience que nous faisons, c'est que l'Esprit Saint habite notre respire. C'est très mystérieux, cette personne de l'Esprit Saint, qui est on ne peut plus elle-même, cette personne, ou lui-même, l'Esprit Saint, en fait, comme vous voulez, masculin ou féminin, de toute façon, il est ni l'un ni l'autre, j'allais dire. Cette personne de l'Esprit Saint qui est on ne peut plus elle-même au moment où elle semble ne pas se manifester. Parce que ce que je dis pour le souffle est vrai aussi pour l'Esprit Saint comme eau et comme sève. En fait, j'aurais pu intituler cette rencontre ce soir l'Esprit Saint comme sève. La fois passée, je reprenais le livre de la vie où Thérèse parle d'arroser le jardin. Et je faisais cette remarque, j'avais bâti cette rencontre autour de cette remarque que finalement, l'objectif de l'oraison telle que Thérèse en parle au moins à cet endroit-là, n'est pas tant de ménager une rencontre avec Dieu que de ménager le jardin que nous sommes où Dieu vient. Ce qui nous met moins en face à face en quelque sorte. Il reste que Thérèse ensuite développe des façons d'arroser le jardin. Il s'agit bien d'arroser. Ça veut dire que si heureuse soit la manifestation de l'eau, surtout, hein, elle l'évoque souvent, elle dit bah, de toute façon, on est toujours appelé un jour ou l'autre à replonger le seau dans le puits, et puis parfois à le remonter, il n'y a plus rien dedans. Bon. Parce qu'on est maladroit, ou parce que le puits, il semble à sec, ou en tout cas, il ne nous laisse pas prendre de l'eau. Donc la manifestation de l'eau, que ce soit dans le puits, que ce soit avec la noria, que ce soit avec les petits canaux, que ce soit avec la pluie du ciel, la manifestation est heureuse. C'est heureux, c'est rafraîchissant de ressentir l'eau. Il reste que pour la terre que nous sommes, le plus important, c'est que l'eau imbibe, pas l'eau inonde, mais l'eau imbibe la terre. Et en fait, les jardiniers, les jardinières le savent bien, un bon arrosage, pas un arrosage qui se voit, c'est quelque chose qui est dans la terre. Ça, c'est une autre expérience que nous faisons. C'est terre aride, altérée sans eau, comme dit le psaume, le sentiment que tout notre être, et notre être sur le mode de la chair, alors pas la chair comme on parlait Paul dans Galates, mais la chair comme on parle tout l'Ancien Testament, c'est-à-dire à la fois cette unité d'éprouver, de sentir, et cette vulnérabilité de l'être, cette chair, elle peut être asséchée, elle peut être tendue, elle peut être. Et elle est assouplie parce qu'elle est foncièrement désaltérée. Expérience que nous pouvons tous faire et qui est une autre expérience de l'Esprit Saint, où encore une fois l'Esprit Saint ne se voit pas. Mais ce que nous goûtons, c'est que ce désaltèrement de notre chair n'est pas procuré par nous-mêmes. De même que cette force, cette disponibilité dans le respire, c'est bien notre respiration, et pourtant notre respire est soutenu par un autre souffle que pourtant nous ne percevons pas. Et la troisième image, la troisième expérience, ce ne sont pas que des images, qui vient avec les deux autres, c'est celle du feu. Cette intensité, le feu qui nous saisit, alors évidemment, la passion est une belle chose, mais elle peut être destructrice par son objet ou par son régime. Mais c'est pas ce qui m'intéresse ici ce soir. Ce qui m'intéresse, c'est que nous parlons aussi de l'Esprit Saint comme d'un feu, parce que nous éprouvons en nous-mêmes qu'il y a une flamme qui se réveille, qu'il y a une intensité, qu'il y a une chaleur, alors que ce soit la flamme amoureuse, que ce soit tout ce qu'on veut, mais cette expérience d'un enflammement de notre être. C'est une expérience qui, encore une fois, pourrait n'être qu'humaine, mais qu'il nous arrive de relire comme une expérience de la présence de l'Esprit Saint à l'intérieur de nous-mêmes. Je pense à Jean de la Croix, hein, dans la nuit obscure, pardon, hein, si notre luz guía, sino la que el corazón ardía, si sans autre lumière et guide que celle qui, dans le cœur, est ardente. Ardi en espagnol. Il y a une intensité de notre être qui est soutenue par l'intensité de l'Esprit Saint, mais là encore, on ne le voit pas. Là encore, on ne le voit pas. Ce n'est pas une flamme qu'on a sous nos yeux, ce n'est pas une eau qui nous submerge, et puis ce n'est pas un vent qui nous jette à terre. Pourquoi j'évoque tout cela? Parce que le fruit de l'Esprit qu'évoque Paul aux Galates, c'est la présence de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est que l'Esprit puisse être Esprit Saint en nous. C'est ça, le fruit de l'Esprit. Et c'est une transformation à la fois immédiate et pas forcément reconnue et sentie de notre être. En fait, notre être est fait pour être habité par l'Esprit Saint. Et c'est pas pour rien qu'on le réfère particulièrement à l'Esprit Saint. On le sait bien que c'est la Trinité Sainte dans cette mystérieuse communion vivifiante qui est en nous, qui est tournée vers nous, qui vit vers nous d'un certain point de vue, ce qui est quand même assez inimaginable. Il reste que si l'on parle de présence et d'une présence qui transforme alors même qu'elle est à peu près impossible à saisir, à percevoir et à mettre en... à mettre en image, si, on vient de le faire, mais justement, ces images sont un peu paradoxales parce qu'elles parlent d'un souffle dans le souffle. Allez repérer le souffle dans le souffle. Elles parlent d'une eau, mais d'une eau qui nous imbibe, nous qui sommes des êtres composés, paraît-il, à 80% d'eau, ce qui m'a toujours inquiété. Alors, je sais pas, ça doit être du sol jusque-là, puis le reste c'est sec, et puis tout le reste on baigne dans l'eau. Mais on s'entend que c'est pas très repérable. Et. Alors pour le feu peut-être un peu davantage, sauf que je parlais d'enflammement plutôt que d'embrasement, parce que dans embrasement ça va finir par faire descendre cette affaire-là. Jean de la Croix, hein, par ailleurs, parle aussi de la bûche enflammée. Mais ça c'est plutôt pour parler de la transformation, donc c'est moins notre objet. Mais il est un fait que nous sommes des êtres qui pouvons, malheureusement, c'est une épreuve à vivre cela, nous pouvons être éteints. Et inversement, nous pouvons être ou nous pouvons avoir la chance de vivre avec des gens qui sont allumés. Bon, trop allumés, ça on peut en discuter. Mais globalement, on rejoint encore là une expérience de vie où il n'est pas possible de séparer la présence de l'Esprit Saint de ce qu'elle provoque, puisque elle, dans un certain point de vue, cette présence de l'Esprit Saint ne fait que nous rendre vivants. L'œuvre de l'Esprit et l'œuvre au fond de la Trinité Sainte est, et c'est pour ça que j'évoquais dès notre première rencontre Genèse 1-2. L'œuvre de la Trinité sainte et vivifiante, c'est de faire de nous ce qu'elle veut que nous soyons, c'est-à-dire des êtres vivants. Et de participer à notre vie sans nous enlever d'être nous les vivants. Vivre à partir de nous-mêmes, pourrait-on dire. C'est un sujet de philosophie, je réalise que ces derniers temps, par différentes lectures, que c'est un sujet qui est très travaillé. Mais le fruit de l'esprit, qui a des conséquences, bien évidemment. Le fruit de l'esprit, enfin plutôt, ce que Paul a en tête lorsqu'il tourne autour de cela, et on le retrouverait dans Corinthiens, abreuvé par l'unique esprit, sous une autre perspective, mais ça, on rejoint un petit peu la même idée. Le fruit de l'esprit, c'est que l'esprit puisse être en nous tel qu'il veut être lui-même en nous. C'est ça l'œuvre majeure. Je disais tout à l'heure que, je l'évoquais à peine, nous avons tout de même une certaine tendance à considérer, s'agissant de fruits par exemple, à considérer notre être comme devant produire quelque chose. Et ça, c'est pas nouveau. Alors peut-être que notre société est encore plus portée que d'autres à faire de nous des êtres productifs, et des êtres qui se vendent, en plus, non seulement on nous demande d'être productifs, mais en plus on nous demande de nous vendre nous-mêmes, et de vendre nos productions. Bon. Mais c'est pas si sûr que ça que ce soit une invention nouvelle. Les techniques de soi, comme disait un philosophe français des années 70, ne sont pas une nouveauté. Dans la Bhagavad Gita, on en voit déjà des passages entiers, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et c'est même un petit peu normal que... d'aussi loin qu'on se souvienne, les êtres humains cherchent à s'améliorer, à se perfectionner, à travailler sur eux-mêmes. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Seulement, la conséquence, c'est qu'on a un petit peu tendance à penser qu'on va travailler comme on travaille notre jardin, et que ça va porter du fruit. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, attention, il est plus qu'inspirant pour nous. Il y a quelque chose de, il y a comme une relation mystérieuse entre nous et les arbres, les plantes, etc. Mais nous regardons les arbres, mais vous savez, les arbres ne nous regardent pas, hein. Et les animaux ne nous regardent pas en se disant « tiens, un autre animal ». Quel que soit l'attachement des animaux pour les humains, c'est quelque chose d'assez étonnant, il reste que nous sommes bien les seuls à assez spontanément voir dans l'animal ou dans la plante quelque chose qui parle de nous. et quelque chose qui nous permette de nous comprendre. Mais je disais bien, nous ne sommes pas des plantes. Nous ne sommes pas des arbres. Et quand je dis cela, je ne tiens pas à propos de biologie, j'en sais rien, c'est pas mon propos. Mais par le simple fait que nous regardions un arbre et que nous disions que cet arbre nous dit quelque chose, nous sommes bien des êtres humains. Et on peut rendre grâce à Dieu d'avoir créé des arbres qui permettent, en les regardant, de comprendre quelque chose de nous-mêmes. Mais les deux choses que je viens de dire mises ensemble, c'est pour bien saisir que racines, fleurs et fruits, je l'ai déjà dit dans une autre rencontre, ne nous entraînent pas sur la piste d'un processus où on va finir par produire quelque chose. Quand bien même ce serait nous-mêmes. Parce que même nous, nous ne sommes pas un produit pour nous-mêmes. Dans ce que Galate évoque de l'esprit, j'aimerais le prolonger pour en voir finalement une présence de l'esprit à tout notre être. J'avais déjà dit que la fécondité de notre être, c'est pas qu'il produise quelque chose d'autre, la fécondité de notre être, c'est qu'il s'éprouve comme vivant. Et la continuité de l'esprit, elle est là. C'est-à-dire que l'œuvre continue de l'esprit est là. Il y a une forme de poussée continue, c'est une expression de Gustave Roud dans un de ses poèmes, hein, cette poussée continue qui, d'un certain point de vue, qui ne va vers nulle part, qui ne va pas pour produire quelque chose, qui n'est même pas à utiliser à bon escient, à employer notre force à quelque chose, à employer cette poussée à quelque chose. Ce que nous découvrons au travers de notre être, y compris des changements de notre être, c'est que il est bon de vivre, il est bon d'accueillir la vie qui nous est donné, qui fait de nous des vivants, et l'un des fruits de se reconnaître vivant, c'est de reconnaître la vie chez l'autre, et de la servir chez l'autre, et de l'aimer chez l'autre. Ça, c'est pas quelque chose de productif. C'est même, nous le savons, c'est même quelque chose qui n'a pas de rapport avec la production, parce que il n'y a pas de limite à notre capacité à aimer profondément l'autre, pour qui il est. Alors que très vite et très tôt dans notre vie, nos capacités corporelles, etc., non seulement on en atteint les limites, mais assez vite, il y a un certain nombre d'éléments qui se détériorent. Le dire comme ça, du reste, n'est pas très juste parce que ça ne rend pas justice, c'est le cas de le dire, au fait que notre être n'est précisément pas un être qui aurait un apex, hein, un sommet reconnaissable, puis après, au moins pour la partie corporelle, ça se dégraderait. Puis pour le reste, on espère que ça se dégrade moins vite. C'est précisément une façon assez fausse de considérer notre être, de le considérer par parties séparées, en évaluant pour chaque partie séparée ses capacités, sa capacité à produire, à développer, etc. Et puis le moment où cette capacité décroît. On part d'éléments séparés, on ne part pas de l'unité de l'être. Cette naissance, parce que dans le fond, ce que Galate évoque aussi, c'est bien une naissance à la vie de l'esprit par l'œuvre même de l'esprit. Cette naissance à la vie de l'esprit par l'œuvre de l'esprit, elle arrive, elle est peut-être repérable à un moment ou à un autre de notre histoire. On peut dire, il me semble qu'à partir de cette période, peut-être même de ce jour ou de cette heure, quelque chose a changé dans ma vie et ma relation à Dieu s'est enfin manifestée pour ce qu'elle est vraiment. C'est possible. Il reste que cette naissance selon l'Esprit Saint nous occupe toute notre vie. C'est long. Enfin, c'est long. Bon, c'est pas long par rapport à quoi, je ne le sais pas. Mais c'est une réalité qui en fait déborde notre capacité de la saisir en termes de chronologie, en termes d'histoire. Alors, c'est un petit peu ça. Ce sur quoi je voulais ce soir attirer notre attention, puisque dès que j'ai choisi ce thème, racines, fleurs et fruits, j'ai réalisé qu'il y avait un petit danger, c'était de penser qu'on allait commencer par traiter les racines en bon jardinier que nous sommes, grâce à quoi on aurait des fleurs qui laisseraient promettre des fruits. Bon, ok, il y a des jardiniers dans la salle qui vont dire que c'est pas comme ça que ça se passe, mais ça donne un petit peu l'impression que c'est 1, 2, 3. Ce qui est vrai avec notre potager, ce qui est vrai avec nos arbres, et c'est quand même un acte de foi de planter un arbre quand on sait que certains vont attendre au moins 50 ans pour leur maturité. Ce qui est vrai pour ce premier degré du vivant dont nous prenons soin du reste. Hein. n'est pas vrai, ou plutôt n'est pas opératoire pour nous, ne dit pas notre mystère. Et c'est ce que je voulais souligner en utilisant Galate. Le fruit de l'esprit, bah, ne nous jetons pas sur. Bah, le fruit de l'esprit, il y en a 7 ou 12, d'ailleurs, j'ai jamais su, mais enfin, en tout cas, il y en a un certain nombre. Et faut en avoir un certain nombre. Idéalement, faut tous les avoir. Hein. C'est comme le bingo, c'est mieux d'avoir la combinaison entière. C'est pas cela, le mystère que relève Paul. Et tout de même, hein, pour l'avoir relu ce matin, puis il m'a dit, je le dis pas, il me semble aussi que ce qu'évoque Paul se fait dans le biotope de cette communauté qui est née de rien. De rien. C'est même pas une synagogue qui est devenue tout entière chrétienne, ça on le sait, chez les Galates, c'est pas du tout ça. Comment ces gens ont pu se retrouver ensemble? Bah, mis à part l'Esprit Saint, je vois pas d'autre solution. Ça forme un biotope, et je fais exprès d'utiliser ce terme, parce que, pour le coup, si on revient à nos histoires de racines, si on revient à nos histoires de potager, on est bien dans des biotopes. On découvre aujourd'hui que c'est pas si intelligent que ça de faire de l'agriculture intensive en mettant qu'une et une seule espèce dûment sélectionnée dans une terre qui portera toujours la même espèce. Et qu'on réalise que, par exemple, ce que les autochtones faisaient ici de cultures croisées, eh bien, c'est meilleur. C'est meilleur. Il y a un certain biotope de nos communautés chrétiennes, de même que, dans le fond, il y a un gigantesque biotope de la totalité de la famille humaine, mais ça, c'est à peu près hors de vue, ce qui ne veut pas dire que ça doit être hors de nos consciences, mais c'est hors de notre capacité de nous le représenter. Mais cette vie dans l'esprit que nous éprouvons, et je reviens sur un thème, sur quelque chose sur quoi j'ai commencé ce soir, si intime soit-elle, si personnelle soit-elle, elle se vit dans un biotope qui est peut-être pas facilement repérable, mais elle se vit dans un biotope. Nous ne sommes pas seuls à éprouver cette présence de l'esprit, on est d'autant plus certain qu'il est d'autant moins repérable, de moins en moins repérable. Nous vivons dans une. Ouais, quelque chose comme un biotope. Hein. Les racines dans le sol, elles s'entremêlent, elles se partagent, elles se rencontrent, elles se contournent, etc. Puis elles partagent la même terre. Tout comme du reste, les végétaux respirent, hein, par photosynthèse, dans le même air. Il y a peut-être quelque chose pour nous là-dedans. Mais je reviens pour conclure à ceci. Hein. Le fruit de l'esprit, c'est la vie dans l'esprit. Et c'est de reconnaître dans un certain nombre d'images, dans un certain nombre d'expériences, les indices de cette présence de l'esprit qui nous fait persévérer dans cette vie selon l'esprit. De réaliser que il est plus intime à nous que nous-mêmes, il est dans notre respire, il est dans ce qui nous enflamme, dans ce qui nous fait aller à la rencontre des autres pour les aimer, pour les aider aussi, pour les secourir. Et il est dans ce bien-être que nous éprouvons, bien plus qu'un bien-être physique, même si ça en fait partie, d'un bien-être d'une existence qui, si vulnérable soit-elle, hein, dans la chair, est pourtant désaltérée, et pourtant rendue à sa fraîcheur parce que l'Esprit Saint l'habite et y demeure.
Et là, elle goûte un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure.
Vous avez écouté la quatrième rencontre des soirées proposée dans le cadre de l'école L'Oraison par Zoom et intitulée L'Oraison, racines, fleurs et fruits. Pour participer à la soirée, qui comprend un temps de prière en commun puis un enseignement suivi d'un temps de questions, écrivez-nous à écoleorisonzoom@gmail.com. Cette activité est sans frais. Plus d'informations au sujet des écoles d'oraison animées par la famille du Carmel sur le site www.lecarmel.org. La poésie pour toute la beauté de Saint Jean de la Croix est mise en musique et interprétée par frère Pierre Eliane. Vous pouvez la retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne. Merci de nous avoir écoutés.
Qu'il ne goûte aucune saveur parmi toute la création, seul sans mémoire ni figure, sans le moindre appui quel qu'il soit. Découvre un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure. Et ne pensez pas qu'en son cœur, où sont cachés tous les trésors, il trouve joie et réconfort dans ce qui donne ici la saveur. Ni passé, présent, ni futur, toute beauté passée déjà. Là il goûte un je ne sais quoi, qu'on trouve par aventure. Cherche à s'avancer, mettra davantage de soin dans ce qui est encore loin, qu'en ce qu'il a déjà gagné. Aussi pour une hauteur plus sûre, je préférerais aller là où m'appelle un je ne sais quoi.